grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, coup de projecteur sur un organe désormais bien représenté dans le manuel scolaire de SVT, édité par Magnard, au chapitre dédié à la reproduction et la sexualité, au programme de la classe de 4e, le clitoris est correctement dessiné. Mais ce tabou anatomique persiste encore dans la plupart des manuels scolaires, avec à la clé des jeunes filles qui méconnaissent bien souvent leur corps. Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, 84% des adolescentes de 13 ans ne savent pas correctement représenter leur sexe et une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris, une méconnaissance qui peut avoir un impact sur une sexualité épanouissante. Plus largement, pourquoi cet organe uniquement dédié au plaisir est-il encore nimbé de secrets, voire de tabous dans nos sociétés? Que reste-t-il aujourd'hui de l'obscurantisme dont il a été longtemps l'objet? Comment parler aux jeunes du clitoris alors que beaucoup d'adultes restent encore gênés à l'idée de l'évoquer? Pour nous éclairer ce matin, la psychologue et sexologue Alexandra Hubin, le chirurgien Pierre Folnès et la directrice du mensuel Cosette, Isabelle Motreau, et bien évidemment avec nous, comme tous les mardis, Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle. Nous attendons toutes vos questions sur le clitoris au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Notre psychiatre préféré, quoi de neuf dans vos choses vues?
Eh bien, dans mes choses vues, je ne vous parlerai pas de clitoris, mais plus sobrement de sexe, de plaisir et de bonheur, ce qui n'en est pas si éloigné.
Tout un programme, à tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Alexandra Hubin.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et sexologue et vous avez coécrit « Entre mes lèvres, mon clitoris », « Confidence d'un organe mystérieux », c'est publié chez Erol. Bonjour docteur Pierre Folnès.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien et vous êtes membre fondateur de l'Institut en santé génésique de l'Université René Descartes. C'est quoi exactement la santé génésique?
Oh, c'est un terme anglo-saxon mal traduit qui veut dire la santé materno-infantile, mais on a changé de nom, ça s'appelle Woman Safe maintenant.
Pierre Folnès, vous réparez les femmes dont le clitoris a été mutilé par une excision. Bonjour Isabelle Motreau.
Bonjour Ali.
Vous dirigez le mensuel Cosette et à l'occasion de vos 10 ans, vous rééditez un hors-série consacré au clitoris, intitulé Voyage en clitoris avec un très très beau visuel.
Oui, alors c'est un découpage qu'on a fait nous-mêmes, qui existe toujours avec des petits cartons, il a beaucoup de succès.
Et c'est très joli. Alors Alexandra Hubin, qu'est-ce que le clitoris d'un point de vue anatomique?
Mais c'est surtout un organe qui est à 100% dédié au plaisir féminin. Et c'est important de le dire parce que souvent on s'imagine que c'est un petit quelque chose. Alors qu'en réalité, mais d'un point de vue vraiment morphologique et aussi symbolique, psychologique, c'est énorme. Parce que c'est pas juste une petite perle. Beaucoup de femmes pensent que c'est une petite perle. En réalité, moi je le compare plutôt comme un poulpe. Effectivement, il y a le gland du clitoris qui est comme la tête d'un poulpe. Et puis après, il y a des tentacules qui viennent comme englober le vagin, et donc nous offrir beaucoup de plaisir par voie externe ou par voie interne.
Pierre Folnès, on ne connaît souvent que la partie émergée du clitoris.
Oui, alors il a fallu essayer de faire face au crime qui s'appelle l'excision pour essayer de le découvrir. Avant, on ne savait pas du tout ce que c'était. Tu l'as très bien dit. En fait, c'est un organe qui est aussi long qu'un pénis, quasiment. Simplement, il est enfoui, il est assez complexe, formé de deux arches. Et comme il a été dit, ça entoure le vagin. Pourquoi on le connaissait pas, c'est très simple, parce que la totalité de la science moderne et surtout la médecine est totalement androcentrée encore maintenant. Et donc, comme ça ne sert qu'au plaisir, qui a absolument pas d'équivalent chez l'homme, le pénis sert à la fois à uriner, à reproduire, mais en plus il n'y a pas du tout d'équivalent, il n'y a pas d'organe de plaisir dédié chez l'homme, et donc ça a tout bloqué, et il a fallu redécouvrir et découvrir cet organe il y a 20 ans à peu près maintenant, pour pouvoir prétendre déjà le réparer. Avant d'essayer de le réparer, il fallait voir comment c'était fait. Et donc c'est effectivement un organe assez merveilleux qui entoure entièrement le vagin, qui sur deux plans. Et on peut considérer maintenant qu'on connaît mieux les circuits nerveux, qu'il est responsable de la quasi-totalité de la sensibilité et de la sexualité féminine, puisque même ce qu'on disait avant, les orgasmes vaginaux, sont en fait transmis par des parties du clitoris lui-même. Donc c'est un organe effectivement assez exceptionnel.
Et vous dites redécouvrir, et c'est important de le dire, en réalité c'est en 1559 que les premiers chirurgiens anatomistes ont découvert la forme complète du clitoris. Et puis, il a été complètement aux oubliettes et c'est seulement maintenant, récemment, qu'on nous dit son importance.
Il faut rendre hommage à Matteo Realdo Colombo, hein, qui découvre cette région essentielle de la sexualité féminine.
Exactement, c'est ça. C'est de se dire, ok, à cette époque-là, il découvre tout et puis, chut, complètement dans l'anonymat. Et vous savez qui l'a réveillé ? À coup d'eau froide, c'est Freud. Mais lui, il nous a renvoyé.
Alors là,
à coup d'eau froide, c'est-à-dire
je m'oppose.
Non, il nous a parlé du clitoris, mais avec une vision très phallocentrée, machiste, exactement. Mais il était le reflet, en fait, de la société à cette époque-là, où on tournait tout le plaisir vers cette importance du phallus, du pénis, de la pénétration. Et donc, il nous disait qu'effectivement, une femme qui jouissait de son clitoris était une femme qui était immature. Mais quand il disait clitoris, il parlait de la partie externe du clitoris. Et c'est seulement après, avec les différentes recherches, qu'on a pu comprendre, et là je vous rejoins complètement, à quel point le clitoris était central dans le plaisir.
Mais comment est-on passé d'une connaissance quasi complète du clitoris au XVIe siècle à ce que Freud appelle le continent noir inexploré qu'est la sexualité féminine ? Comment on est passé de cette connaissance à cet obscurantisme, Isabelle Motreau ?
On est passé de l'un à l'autre, en fait, souvent par le biais de la de ce qu'on pensait être sa fonction. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, par exemple, il était tout à fait recommandé au mari, puisque dans les couples étaient que hétéros, hein, au Moyen Âge, vous savez, officiellement. Il était recommandé au mari de stimuler l'orgasme chez la femme parce que ça servait à la reproduction. Un bon orgasme était souvent synonyme d'une bonne reproduction. On avait plus d'enfants comme ça. Alors il fallait avoir du plaisir. Et puis ensuite on s'est rendu compte que la masturbation finalement c'était une sorte de contraception, ça pouvait éventuellement. Vous savez, c'est les idées qu'on se faisait à cette époque-là. Donc là, au 17e, on a commencé à se dire que ouais, bon, finalement clitoris c'était peut-être pas si bien que ça. Et en Europe au 19e siècle, ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait une partie des médecins qui disaient il faut masturber les femmes parce que ça fait sortir l'hystérie, enfin ça provoque une espèce de plaisir. Alors c'était très médical, hein, attention, c'était pas du plaisir, oulala, c'était une forme d'hystérie positive. Et puis il y avait une autre partie des médecins qui excisaient les femmes au motif que elles étaient justement, c'était un organe qui allait pouvoir les rendre hystériques. C'était un petit peu complexe. Et à partir de là, à un moment donné, on a décidé que fallait oublier tout ça. Et il est sorti des manuels scolaires et des manuels médicaux. Et c'est ça surtout qui a fait qu'il a disparu.
Pierre Foldès.
Sauf qu'il y a 27 siècles, quand les hommes sont sortis des cavernes, ils ont été effrayés de découvrir la sexualité féminine, qui non seulement la femme avait la responsabilité de la reproduction du clan, mais sa sexualité les dépassait déjà complètement. Et eux, il y a 27 siècles, ils ont parfaitement compris que c'est ce petit organe-là qu'il fallait blesser, enlever, mutiler pour essayer de contrôler une sexualité qui leur faisait peur. Les momies égyptiennes étaient excisées.
Hein. Alexandra Hubin, sur cette peur du plaisir féminin
c'est
au
vrai,
cours des siècles.
Oui. Donc c'est vrai, je vous rejoins complètement. Donc il y a eu vraiment cette crainte par rapport au plaisir sexuel féminin. Le côté de dire, tiens, ce plaisir ne sert pas du tout à la reproduction, donc on s'y intéresse pas vraiment. Mais voilà, on heureusement aujourd'hui, on est dans une société où justement on va vers le changement.
Alors en 1953, on assiste à un tournant dans le discours sur le clitoris, hein, grâce notamment au livre du docteur Alfred Kinsey, Le comportement sexuel des femmes, où il montre l'importance de cet organe, mais il subira de nombreuses attaques, hein, Alexandra Hubin.
Tout à fait. C'était le premier à s'intéresser vraiment à la parole des femmes. Donc à ne plus comparer la sexualité masculine à la sexualité féminine, ne plus simplement répandre des fausses croyances, mais interroger. Aller leur demander, mais comment se crée le plaisir? Comment est-ce que ça se passe chez vous? Quels sont les types de caresses qui vous plaisent? Les types de pratiques sexuelles qui vous plaisent? Et là, émerveillement. On s'est rendu compte à quel point, à partir du moment où on était à l'écoute de notre corps, il pouvait nous donner plein d'indications et absolument pas stéréotypé sur cette nécessité d'une pénétration pour faire jouir.
Importance également du rapport des deux célèbres sexologues américains, William Masters et Virginia Johnson. Et plus tard, en 1976, la chercheuse en sciences sociales, Cheer Hyde, publie un rapport sur la sexualité féminine qui est violemment attaqué.
Exactement. Donc c'est vraiment, ils ont été dans la même mouvance. Ils ont répertorié le même type de témoignage. Donc quelque part, ils venaient aussi rassurer en disant, mais tiens, c'est pas juste Kinsey qui a extrapolé certaines choses ou qui avait plein de biais dans ses interrogatoires. Non, absolument pas. Ça a été confirmé par toute une série de chercheurs.
Que se passe-t-il dans les années 1980? De quelle façon les féministes vont-elles contribuer fortement à réhabiliter le clitoris?
Elles vont prendre le discours à bras-le-corps, en fait. Elles vont dire, mais oui, c'est vrai, c'est important aussi de s'intéresser à la sexualité féminine. Et donc, pour moi, ça a été comme de concert. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une libération de la parole, des femmes qui demandaient d'en apprendre davantage là-dessus, et à la fois, tous ces chercheurs qui se sont enfin intéressés à la sexualité féminine.
Il faut saluer le travail de l'urologue australienne Hélène O'Connell. Sur l'imagerie médicale du clitoris.
Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez complètement été dans le même sens. Donc,
Pierre Foldès, en 2009, vous avez réalisé la première échographie in vivo du clitoris avec la gynécologue Odile Buisson. Pourquoi c'est si important, cette imagerie médicale du clitoris?
C'est terriblement important parce que, encore une fois, le clitoris était le seul organe pour lequel on n'avait pas fait ça. Et Hélène O'Connell, à qui j'ai la chance de travailler, a dit, on veut déjà faire des IRM, pourquoi l'IRM, ça marche très bien. On a découvert d'ailleurs que il y avait deux plans différents. Il y avait un plan qui était profond, 15 degrés en arrière du plan de la vulve. Donc ça a amené d'autres recherches, notamment sur le point G. On pourra peut-être en parler, puisque le point G, en fait, c'est une partie du clitoris aussi. Et on a recentré en fait le clitoris dans la sexualité féminine. Et on a en France essayé de trouver des techniques alternatives, et l'échographie en trois dimensions qu'on a découvert est aussi précise, sinon plus précise que l'IRM, présente un avantage absolument extraordinaire, c'est que c'est un appareil relativement simple qu'on pose sur le pubis lui-même, on n'a pas besoin de l'approcher de la vulve, et on montre aux femmes, notamment aux femmes mutilées, l'état de leur génitalité, l'état de leur clitoris, et ça donne le fait de montrer, puisque le sexe masculin est évident, mais le sexe féminin, il se montre pas facilement, le fait de le montrer sur une image a un impact psychologique absolument extraordinaire, on se sert tous les jours de ça.
Tout à fait, se représenter en fait son plaisir, cet organe dédié au plaisir est ultra important pour pouvoir avoir du plaisir. Parce qu'à partir du moment où on nous dit que la mutilation que l'on nous a fait ne peut plus du tout nous offrir aucun plaisir, on projette ça, on appelle ça ce sont des projections mentales. On projette que l'on ne va pas avoir de plaisir, donc on n'a pas de plaisir. C'est des prophéties presque autoréalisatrices. On se prédit de ne pas en avoir, donc on n'en a pas. Par contre, se représenter, effectivement, toute la partie interne, ça ouvre l'esprit en se disant, mais donc je peux avoir du plaisir dans ma sexualité.
Alors mon cher Robert me dit de façon très succincte que le clitoris est le petit organe érectile de la vulve. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus précisément que le Robert, le clitoris, Pierre Foldès?
Oui, le clitoris, il est formé de deux arches. Une arche profonde qui est ancrée sur l'os du bassin, les branches subpubiennes, qui va remonter, ça s'appelle les cordes du clitoris. Le tiers inférieur est engainé dans une gaine qui le rend inextensible. Par contre, toute la partie antérieure est non seulement mobile, mais érectile aussi, comme un pénis. Il va se courber en avant, ce qu'on appelle le genou, et puis apparaître juste le petit bout bout que tout le monde connaît, ce n'est que le gland du clitoris qui en est l'extrémité. Et il est rejoint par une autre arche qui est un peu plus petite et qui est un petit peu plus en avant et qui entoure en fait l'entrée du vagin, qui s'appelle les bulbes. Et ça, c'est un organe assez extraordinaire parce que ça enserre complètement l'entrée du vagin. Ça communique avec la première arche. Et donc, ces bulbes sont beaucoup plus érectiles que les corps du clitoris eux-mêmes. Et donc, c'est cet ensemble lui-même qui est vraiment au centre de la vulve et qui va réagir. Beaucoup de femmes, quand elles parlent de ce qu'on appelle la sexualité virginale, en fait, le vagin lui-même n'est pas vraiment sensible. Par contre, elles disent très très bien que l'entrée du vagin a une sensibilité particulière. Et bien, cette entrée du vagin, c'est le clitoris lui-même. Et le point où tous ces arches se rejoignent, et comme par hasard, l'endroit qui a été désigné ce qu'on sait, comme le fameux point G, hein, et en fait, c'est l'endroit sur lequel mécaniquement, si vous touchez cet endroit-là, c'est l'endroit où vous déplacez, vous déformez le plus et le plus facilement l'ensemble du clitoris. Ce qui fait qu'il y a plein de travaux en cours auxquels nous participons et qui sont en train de confirmer ça. Il y a des études très très intéressantes sur le caractère pulsatile, sur des neuromédiateurs qui seraient présents à cet endroit-là. Donc il y a beaucoup de recherches très tout à fait passionnantes. On a juste 2 siècles de retard par rapport au pénis, mais on y arrive et c'est absolument génial.
Alexandra Hubin.
Oui, je vous rejoins vraiment complètement. Et c'est pour ça que c'est important de sortir de ces étiquettes. Est-ce que je suis plutôt clitoridienne ou plutôt vaginale? En réalité, on pourrait résumer et dire qu'on est toutes clitoridiennes. Mais c'est vrai que on peut réagir de façon plus facilement ou moins facilement à une stimulation plutôt externe, par exemple, donc avec des frottements sur le gland du clitoris, ou plutôt par des pressions au niveau de la paroi vaginale qui vont effectivement venir comme caresser, stimuler par voie interne les bulbes et le point d'intersection entre les arcs et les bulbes.
Alors vous nous avez apporté, parce qu'on est à la radio, Alexandra Hubin, qu'est-ce que vous nous avez apporté?
Mais c'est un clitoris.
En trois dimensions.
Et c'est vrai
c'est
que
le fruit du travail de la chercheuse Odile Fillon.
Exactement, voilà. Ouais. Et on peut très facilement en fait télécharger simplement pour imprimer en 3D un clitoris. Et donc je me balade partout avec.
Pourquoi le travail d'Odile Fillon est-il aussi important pour l'émancipation des femmes?
Parce que du coup, on peut se représenter les choses. Vous savez, par rapport à un discours théorique, ça peut rester très très abstrait. Et à partir du moment où, depuis des générations, on n'arrête pas de se représenter le clitoris comme étant juste une petite perle que l'on peut stimuler lors des préliminaires, il faut casser ça, c'est pas si facile.
Isabelle Motreau.
Non mais en plus c'est un joli objet. C'est vrai que si on se baladait avec les organes génitaux masculins en taille réelle comme ça, comme vous le faites, ce serait très surprenant. Alors que là, pas du tout. C'est gracieux, c'est rose, c'est joli.
Question de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Oui, en écoutant Isabelle Motreau tout à l'heure, vous reparliez de l'histoire et finalement de la fonction non procréative qu'on a identifiée et donc mise au rebut. On a l'impression que finalement dernières années, on était resté là-dessus. C'est-à-dire, identifiant le fait que ça ne servait entre grands guillemets à rien, on mettait le mouchoir dessus. Mais comment expliquer? Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés occidentales, finalement, ce rejet, ce désintérêt majeur pour un organe qui n'avait donc aucune fonction utile, on va dire?
Pierre Foldès.
Ça révèle à quel point nos sociétés restent totalement androcentrées et que malgré les mouvements récents, malgré MeToo, malgré tout ce qui arrive, on est encore au début de la bascule. Et dès qu'on a le dos tourné, eh bien, ce caractère machisme mondial bloque tout, mais de façon beaucoup plus profonde qu'on l'imaginait. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai.
Alexandra Hubin.
Oui, et mais justement, je pense qu'on est dans une phase de changement. J'ai beaucoup de patients qui viennent me consulter, qui me disent, mais vous savez, c'est dur pour nous les hommes d'entendre dire que soi-disant on ne pense qu'au plaisir, à la pénétration et tout ça. On est soucieux du plaisir, mais on manque d'informations. On ne sait pas toujours effectivement comment s'y prendre. Et c'est vrai que nous, en tant que femmes, on a aussi une responsabilité, c'est de guider nos partenaires, finalement, qu'ils soient féminins ou masculins, hein, puisqu'on est toutes différentes, même si anatomiquement parlant, on a tout un clitoris, c'est pas pour autant qu'il va réagir de la même façon. C'est pas juste une caresse type pour un résultat donné. Si on n'est pas excité psychiquement, physiquement, on ne sera pas réactif. À un moment donné, on pouvait lire dans les magazines, genre des recettes de cuisine en disant, mais vous savez, si vous poussez à tel endroit, vous tapez de cette façon-là ou vous tapotez de cette façon-là, d'office, vous allez avoir un orgasme ou alors c'est que vous êtes à côté. Ben non.
Et ça marche pas comme ça.
Mais ça marche pas comme ça. Si on n'est pas excité, il ne réagira pas.
Réflexion de Christophe André.
Oui, moi je suis frappé par deux choses. D'abord, c'est vrai que, ben, en tant que médecin, moi j'étais totalement ignorant de ces histoires-là, alors que normalement les médecins, hommes ou femmes, devraient être à la pointe des capacités de pédagogie, d'explication, de compréhension. Et c'est vrai que découvrir cette petite statuette du clitoris, moi je trouve ça merveilleux, c'est extrêmement pédagogique, on comprend instantanément ce qui peut se passer pendant un rapport sexuel, donc c'est vraiment fondamental. Et après, c'est vrai que c'est des histoires de jeu de pouvoir, cette omerta absolue, cette violence même faite au clitoris par les hommes de toutes les cultures et de toutes les époques. C'est pas vraiment le monde occidental ou telle partie du globe. C'est une façon d'asservir la femme, de la limiter dans ses capacités d'égalité, de dire au fond la femme c'est un manque. C'était le discours de la psychanalyse quand même. Les complexes de castration des femmes, la sexualité féminine comme étant manquante de quelque chose, et donc tout ça est bousculé aujourd'hui.
On va vous prêter ce petit objet, Christophe. Nous attendons toutes vos questions sur le clitoris au 01 45 24 7000. Dites-nous si c'est encore un sujet tabou pour vous. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Le Prince.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Colette Renard, les nuits d'une demoiselle.
Grand bien vous fasse.
C'est bien. T'as du clitoris, j'aime bien.
Ali Rebéi sur France Inter.
10h29 et on se demande si le clitoris reste encore un organe tabou en 2019. N'hésitez pas à témoigner et posez vos questions au 01 45 24 7000.
Au début, durant l'Antiquité grecque, clitoris était le nom d'une amante de Zeus qui avait la taille d'une fourmi. Le mot vient du grec keito qui veut dire la clé.
Tu comprends les métaphores ?
En Europe, au début du Moyen-Âge,
on pensait plus ou moins que ça servait à enfanter. On savait pas trop.
Arrive ensuite le 16e siècle avec André Vézal, anatomiste, médecin et pas la moitié d'un con, qui déclare que le clitoris est une malformation féminine, un peu comme un pénis qui aurait mal tourné. Et puis au XVIIe siècle, on arrête de les couper parce qu'on se dit que en fait on s'est gouré et que finalement c'est peut-être lié à la reproduction. Et puis en 1900, il y a Freud qui débarque avec l'idée stupide que une sexualité clitoridienne c'est soit déviant, soit immature. Et en 1930, les scientifiques se mettent enfin d'accord. Ce qui est sûr maintenant, c'est que ce n'est pas relié à la reproduction. Dans le plaisir, c'était pas de la science. Du coup, on le retire du dictionnaire et des manuels d'anatomie jusqu'en 1960. En 2017, seule l'édition Magnard a dessiné correctement le clitoris dans les manuels scolaires.
Extrait d'une vidéo YouTube et tout le monde s'en fout. Est-ce qu'il existe encore un tabou autour du mot clitoris? Alexandra Hubin, je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue.
Écoutez, j'ai l'impression de moins en moins. C'est un petit mot qui devient mignon, que l'on peut dire facilement. Donc, je dirais que non.
Isabelle Motreau?
Non, bah,
Cosette.
À Cosette, ça fait des années qu'on en parle, donc on a du mal à s'imaginer que. Mais, honnêtement, je pense que les jeunes générations, effectivement, on en parlait, sont complètement libres avec ce mot-là. Hein.
Malika nous dit sur notre page Facebook qu'avant d'en parler aux jeunes du clitoris, il faudra en parler aux vieux, qui ne savent parfois même pas que cela existe. Si vous saviez le nombre d'hommes à qui j'ai appris son existence, ah, j'oubliais de vous dire mon âge, 73 ans, bientôt. Et je n'aurais pour rien au monde accepté de compter les mouches au plafond. Sandrine qui nous dit « Je travaille dans une association d'éducation et de promotion de la santé. Encore maintenant, le clitoris est en effet mal connu, y compris par les professionnels. Certains enseignants l'abordent de manière positive, mais ce n'est pas toujours le cas et certaines jeunes filles peuvent ne pas avoir un rapport harmonieux avec leur clitoris. » Vous confirmez, Pierre Folnès?
Ah oui, je confirme parfaitement.
Je rappelle que vous êtes chirurgien.
On est aux prises avec un phénomène récent qui sont les changements de mode d'intégration des femmes immigrées. Je ne parle pas forcément mutilées. Mm-hmm. Et l'OFPRA a mis en place un certain nombre de critères de sélection et notamment les fameux certificats médicaux qui décrivent l'anatomie féminine. Et c'est absolument hallucinant de voir comment même les gynécologues sont insuffisamment formés. Donc il n'y a pas de tabou, mais il y a une insuffisance de connaissances, même dans la gynécologie obstétrique, et a fortiori, même chez les médecins légistes, ce sont théoriquement eux qui doivent faire ça. Et donc, nous avons à diffuser notre connaissance pour le bien des femmes, parce que le clitoris, il n'est pas si connu que ça encore.
Et
diffuser cette information, pour moi, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que ça me paraît logique, pertinent de le faire, mais dans nos écoles. Parce qu'actuellement, et c'est souvent simplement par manque de moyens, et c'est vrai aussi dans certains cas par manque d'informations, mais il y a quand même de plus en plus d'intervenants qui vont dans les écoles, qui essayent de se renseigner, et finalement qui expliquent que par manque de temps, ils sont obligés de parler uniquement de mise en garde par rapport à la sexualité, c'est-à-dire de la sexualité qui fait peur. Donc des grossesses non désirées, des infections sexuellement transmissibles, des abus sexuels, et qu'il ne reste que très très peu de temps pour expliquer simplement la beauté, la magie, tout le plaisir et l'épanouissement que l'on peut retrouver dans une relation sexuelle, dans le respect de ses propres désirs et dans le respect de celle de l'autre.
Alors sur notre page Facebook, Lilita nous dit « c'est pas aux enseignants de leur parler du clitoris ».
Ce serait à qui alors ? Parce que si on n'en parle pas, pour parler de clitoris avec ses propres enfants, c'est quand même très complexe. Et même ça peut créer, si on le fait sans un trop grand détachement, un climat un peu incestueux. Parler de sexualité de façon générale, avec ses enfants, de façon beau, oui, pourquoi pas. Mais précisément, de pratiques sexuelles, de comment faire, pour moi, c'est un non-sens. Alors, on peut laisser aussi la responsabilité aux films porno. Alors, c'est sûr que avant...
Pas beaucoup de clitoris dans les films porno. Hein.
Déjà, et puis... Mais voilà, avant, je veux dire, c'était toute une démarche. Maintenant, de 3 clics, on peut déjà tomber là-dessus. Donc, c'est une information qui vient à nos jeunes. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? Si ce n'est pas la responsabilité des enseignants, qui peut leur en parler?
Isabelle Motreau, dans leur série de Cosette consacrée au clitoris, vous avez rencontré des professeurs de SVT qui osent parler du clitoris et du plaisir féminin. Mmh. Pas simple, hein, car ces enseignants doivent rester dans une certaine bienséance. Alexandre Magot, hein, que vous aviez interrogé en 2016, hein, qui est prof de SVT, vous dit... il y a beaucoup d'autocensure chez les profs qui anticipent des attaques possibles de parents d'élèves ou de leur direction. Et pour ce même Alexandre Magot, aborder le plaisir féminin en classe permet de lutter directement contre les violences faites aux femmes.
Alors, il a tout à fait raison. C'est vrai que c'est la démarche essentielle à avoir. Le problème, c'est qu'en effet, ça peut être considéré dans certains établissements, où ça l'était maintenant. Honnêtement, peut-être que ça a évolué un petit peu, hein, parce que là, quand même, on est 2-3 ans plus tard, mais ça a pu être considéré comme quelque chose de déplacé, vous voyez, comme quand il y a eu ces histoires de la parité, enfin des trucs de genre là,
théorie du genre,
voilà, où d'un coup les choses sont prises de travers, mal comprises, soupçonnables de on ne sait trop quoi d'ailleurs, et on en revient toujours à cette histoire de clitoris. Qui serait quand même, d'une manière ou d'une autre, quelque chose d'un petit peu malsain, vous voyez. Et ça, ils ont eu beaucoup de mal à en sortir.
Marie-Laure Zonshine, vous pouvez rappeler les chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes?
Alors, plus que les chiffres, ce que vous l'avez donné tout à l'heure, et c'est notamment la méconnaissance des jeunes filles, le Haut Conseil à l'égalité, effectivement, en 2016, a parlé d'une excision culturelle et mentale. Et pour reprendre ce que vous disiez, Alexandra Hubin, sur le besoin d'expliquer aux jeunes en classe, il y a un biais qui est intéressant et que soulève le Conseil, c'est que la reconnaissance du plaisir féminin et du rôle essentiel du clitoris, eh bien, c'est une étape indispensable à la construction d'une sexualité positive et égalitaire. Ça, c'est un biais absolument essentiel. C'est aussi le moyen de parler de ça aux jeunes en leur disant qu'effectivement, le plaisir féminin comme masculin, il est tout à fait égal. Enfin, en tout cas, il devrait l'être.
Je rappelle juste les chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. 84% des adolescentes de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe et une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. C'est le fruit d'une enquête qui a interrogé 316 élèves de 3e et 4e de façon anonyme.
Oui, mais en tant que femme, on est effectivement un peu désavantagée, rien que par le fait que la grande partie de notre clitoris est interne. Un petit garçon, dès son plus jeune âge, on va lui apprendre à faire le petit escargot dans sa baignoire pour son hygiène, hein, donc à décaloter son sexe, à l'observer. Il va pouvoir voir que par moment, il est un peu en érection. Donc il va avoir toutes ces observations. On nomme le pénis, on va peut-être utiliser des mots doux quand ils sont plus petits comme zizi, et puis progressivement le mot pénis sera là. Quand on dit que pour la femme, bon déjà pour regarder sa vulve, elle doit y aller avec un petit miroir et tout ça, donc c'est pas quelque chose qui se fait aussi automatiquement. Et puis en plus, il était absent le clitoris des manuels scolaires. Alors que vous savez, si on cite les choses tout naturellement dans les conversations, les enfants ne se choquent pas de ça. Là, on n'est pas occupé de leur parler de choses qui sont malsaines ou quoi que ce soit. On est simplement occupé de leur parler de leur corps et du fait que c'est logique quand ils sont plus petits que s'ils caressent cette zone-là, ils peuvent ressentir des sensations qui vont être agréables.
Quels sont les effets concrets de cette méconnaissance ?
C'est que, vous savez, pour pouvoir ressentir un plaisir, on doit pouvoir être en pleine conscience par rapport à ce plaisir-là. Prenons un autre exemple, hein, s'il est l'heure de manger et que simplement vous enfilez les cuillères, ben vous pouvez passer à côté toute la saveur de votre plat et de se dire, ben tiens, là je goûte que c'est chaud, c'est froid, c'est croquant, c'est moelleux. Ben pour la sexualité, c'est la même chose. Il faut qu'on puisse avoir cette concentration sur soi pour pouvoir percevoir toute la finesse de ces sensations-là.
Bonjour Magali, vous appelez de Lyon, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors vous êtes sage-femme, Magali, hein ?
Oui, c'est ça.
Et est-ce que pendant vos études, on vous a parlé de, du clitoris ?
Alors, j'ai été diplômée en 2001, donc ça a quelques années déjà, mais c'est vrai que pendant toutes mes études, on a eu des cours d'anatomie, mais le seul moment où on a parlé du clitoris, c'était sur l'anatomie de la vulve, et donc on parlait uniquement du gland du clitoris, voilà, qui était un petit organe posé là au milieu, sans rapport, sans attache, et sans tout un corps qui se déroulait derrière lui.
C'est étonnant tout de même, Magali, que le clitoris soit absent de vos études de sage-femme.
Ah mais complètement, et c'est d'autant plus étonnant que moi je me suis jamais posé la question jusqu'à ce que je lise le hors-série de Cosette il y a quelques années et que je découvre peut-être qu'il y avait un vrai clitoris. Merci Isabelle Montreux.
Mais c'est un travail collectif, vous savez.
Vous avez une question, Magali?
Alors, eh bien oui, avec cette découverte, qui n'a pas été abordée dans mes cours à l'époque, et je me demandais si au moment d'une épisiotomie, le clitoris pouvait être atteint par le coup de ciseau.
Pierre Foldès.
Alors, je vous rassure, pas du tout. La majorité des épisiotomies sont quand même postérieures et enfin inférieures et latérales. Donc, on n'a aucune chance de l'atteindre. En revanche, si vous laissez les déchirures se faire, il y a des déchirures qui peuvent se faire vers le haut et impacter cet organe assez facilement. Le problème, c'est que on rejoint un petit peu la problématique de l'excision, c'est que sur des épisiotomies, surtout si elles sont pas très très bien réparées, vous créez des situations cicatricielles qui vont bloquer une partie de la mobilité de la vulve, et une vulve cicatricielle, ça change tout. Hein. Ça peut changer, ça peut donner des douleurs chroniques, ça peut donner des sensations qui sont totalement inhibées, et c'est très très compliqué. On rejoint le même tabou en fait, hein, c'est-à-dire que les femmes ont beaucoup de mal à expliquer leur pathologie, et comme vous l'avez très bien dit, les chirurgiens gynécologues sont pas vraiment formés à ça. Il y a vraiment encore un énorme travail à faire.
Merci beaucoup Magali pour votre question. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre psychiatre Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues de Christophe André.
Est-ce que vous connaissez le test de Rorschach? Vous savez, on vous montre des feuilles avec des taches de formes variées, mais ne représentant rien de précis, et on vous demande à chaque fois ce que ça vous inspire. Bon, ben voilà. Alors justement, c'est l'histoire d'un psy qui fait passer un test de Rorschach à un de ses patients. À la première planche, le patient lui dit « Ah, là, je vois une femme avec des gros seins. » À la seconde, « Ah, là, je vois un sexe en érection. » À la troisième, c'est un homme et une femme en train de s'accoupler. À la quatrième, c'est un clitoris de profil, c'est évident. Le psy n'en peut plus, il range ses planches et lui dit « Cher monsieur, inutile de continuer, le diagnostic est clair, vous êtes obsédé sexuel. » Et le patient furieux de répondre « Moi, obsédé sexuel, c'est vous qui avez un problème avec le sexe. Vous n'arrêtez pas de me montrer des images pornographiques depuis tout à l'heure. » Bon. Alors, c'est sans doute une question d'âge, mais c'est pas un hasard si je commence ma chronique par une blague. Moi, parler de sexe, c'est pas mon truc. Et il faut pas oublier que je fais partie des personnes qui ont grandi dans une société où en parler, ça ne se faisait pas. Une génération qui a accompli une grande part de son éducation sentimentale et sexuelle au son des slow. Vous savez, ces morceaux de musique sentimentaux et langoureux qui permettaient de danser étroitement collés l'un à l'autre, de se communiquer sans mots un éventuel désir. Ça n'existe plus, non, ces trucs-là? Quel dommage, c'était fou les slows, ça faisait quand même bien bouger les cœurs et tout le reste, comme celui-ci, tenez, qui date de 1967, il y a plus de 50 ans. Devinez.
Ah. Marie-Laure Zumstein, que de souvenirs.
Non, dis donc, je rêve.
Ah non, ben je dois être le seul dans cette pièce à avoir lancé le slow.
Nous n'étions pas nés, hein, Christophe André. Hein.
Peut-être avec Pierre.
Chez de Fleur.
Non, mais ça reste quand même des musiques qu'on écoute avec plaisir, je suppose. Enfin, bon, même si ça se danse plus apparemment, d'après ce que
vous n'allez pas dans les bons endroits, Christophe André.
Ouais, mes filles et mes neveux. Alors, bref, le sexe, m'en occuper, oui, en parler, non. Je vais plutôt, si vous le permettez, vous parler de bonheur. Tiens, même de sexe, allez, et de bonheur. Voilà, que peut-on dire des rapports entre sexe et bonheur? D'abord, que certaines personnes n'ont pas besoin de sexe, apparemment, pour être heureuses. On en rencontre beaucoup, par exemple, dans les communautés religieuses, mais pas seulement. Que ce soit chez elles du refoulement, du renoncement, de la sublimation, ou tout simplement la priorité donnée à d'autres bonheurs qu'elles jugent plus importants, comme ceux de l'engagement social, artistique, religieux, elles peuvent être apparemment heureuses sans vie sexuelle. Et puis on peut dire aussi que ces rapports entre sexe et bonheur relèvent de multiples mécanismes. Bien sûr, il y a le plaisir. Le sexe offre du plaisir, un plaisir inné et nécessaire que nous sommes biologiquement programmés pour ressentir, car il est indispensable, entre autres, à la survie de notre espèce. Si le sexe ne nous faisait pas plaisir, notre espèce disparaît très vite. Pourquoi en effet se fatiguer à chercher un ou une partenaire? Pourquoi faire des efforts pour le ou la convaincre de faire crac-crac? Pourquoi se dépenser physiquement pendant l'accouplement en gigotant dans tous les sens? Quel intérêt alors à cette débauche d'énergie s'il n'y a pas la récompense du plaisir? Mieux vaudrait rester tranquille dans son coin à regarder passer les nuages. Mais même s'il est là, Le plaisir ne suffit pas, comme le sexe, à nous rendre heureux à lui seul. Il faut pour cela qu'il ait du sens. Du sens parce que nous avons avec notre partenaire d'autres liens que ceux du seul sexe. Du sens parce que nous savons savourer notre plaisir, en être ému, nous y abandonner et amplifier ce plaisir, le voir se transcender en un sentiment de plénitude qui nous bouscule, nous échappe et nous dépasse. Et puis, un autre mécanisme important relie sexe et bonheur, c'est que l'activité sexuelle nous absorbe et mobilise en général toute notre attention. Dans une très intéressante et très importante étude sur les liens entre attention et bien-être, une équipe de chercheurs avait montré que la sexualité était la seule activité humaine durant laquelle la plupart des personnes restaient totalement concentrées, au lieu de penser à autre chose ou de regarder l'écran de leur portable. Et plus notre attention est stable, plus nous avons de chances de nous sentir heureux. C'est pourquoi le sexe nous offre en général beaucoup plus de bonheur que nos smartphones. Je suppose que vous l'aviez remarqué, mais avez-vous calculé votre ratio hebdomadaire entre temps de sexe et temps d'écran ? Allez, au boulot. Dites-moi, chère Ali, vous qui êtes jeune et moderne, vous en parlez facilement de sexe avec vos proches ?
Ça dépend des proches. Mais en famille, non, c'est pas ma conversation préférée. Christophe André et ses choses vues que l'on peut retrouver en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Allez, nous attendons toutes vos questions sur le clitoris au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Et autour de la table, tout le monde est unanime pour dire que Danger Mouse et Karen O, qui interprètent Ministry, c'est excellent.
Oh, ah très oui. Beau.
C'est doux.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h48 et on se demande si le clitoris reste encore un organe tabou en 2019. N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au 01 45 24 7000. Écoutons la gynécologue Odile Buisson sur France 5 en 2015.
La description du clitoris, c'est 1998.
C'est que dalle.
C'est
là. Avant, rien.
Ah, rien.
C'est avant. Comme si c'était une planète.
Et... Mais c'était une planète interdite.
Très lointaine.
Très lointaine. Et ce qui est très curieux, c'est que moi, je suis gynécologue et je suis pas une petite jeunesse. Et j'ai jamais été curieuse du clitoris, moi non plus. Parce que dans la consultation, même moi, j'avais pas de plainte, il n'y avait pas de plainte. Les Françaises ne se plaignaient pas.
Ah bon ?
On a eu des plaintes, on a commencé à avoir des plaintes. Quand les Africaines sont arrivées sur le territoire français lors du regroupement familial, parce que ces femmes étaient excisées, elles avaient mal. Et c'est finalement par la douleur africaine qu'on a redécouvert le clitoris. Il n'y avait rien sur le clitoris. Vous, les hommes, vous avez à peu près une quinzaine de médications pour traiter vos troubles de l'érection, vos difficultés. Nous, on n'a rien.
La gynécologue Odile Buisson sur France 5. Alors, Pierre Foldès, je rappelle que vous êtes chirurgien urologue et que vous avez réparé des femmes qui ont été mutilées, qui ont subi l'ablation d'une partie de leur clitoris. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement l'excision pratiquée, encore pratiquée dans une trentaine de pays dans le monde ?
Alors c'est malheureusement c'est 64 pays,
c'est 64 pays,
240 millions de femmes, parce que les l'UNICEF qui travaille très bien et qui essaye de mesurer les progrès qu'on fait pour lutter contre l'excision découvre sans arrêt des pays nouveaux où ça se pratique et c'est une pratique qui est beaucoup plus universelle malheureusement qu'on le pensait.
Pour quelle raison on pratique l'excision ?
Eh bien on pratique l'excision depuis 27 siècles pour contrôler, c'est un crime d'homme hein, même si c'est transmis par les femmes, c'est un crime initial d'homme pour contrôler la sexualité féminine. Alors, il y a plein de prétextes qui sont mis en avant, mais on veut juste contrôler la sexualité féminine en blessant le sexe féminin. C'est donc un crime qui est malheureusement très très répandu, qui est pratiqué de façon très diverse d'un pays à l'autre, et qui est aussi pratiqué dans les pays d'immigration. Donc ça s'est pratiqué, 60 000 ont été faits chez nous, et il y a encore à peu près 60 000 femmes hein, chez nous sur le territoire français qui sont excisées. La définition est très simple, c'est la blessure volontaire, donc criminelle, d'une partie du sexe féminin. En général, le gland est impacté. Il y a des formes dans l'Afrique de l'Est où c'est un petit peu plus profond. On va essayer de fermer le sexe en scarifiant les grandes lèvres, en les cousant ensemble, etc. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est un crime qui est encore commis et effectivement, on l'a découvert chez nous avec l'immigration et puis l'expatriation de nos équipes.
Alors, Pierre Foldès, on peut le dire, vous êtes considéré un peu comme un bienfaiteur de l'humanité, faut le dire. Mm-hmm. Vous parvenez à réparer ces femmes mutilées parce que cette mutilation n'a rien d'irrémédiable.
Alors, ce qu'on a découvert, ce que j'ai découvert il y a, en essayant de m'y intéresser. Pourquoi ? Parce que j'étais en fait en mission humanitaire pour l'OMS, pour tout à fait autre chose, les fistules vésico-vaginales. J'ai découvert ce monde des femmes mutilées et curieusement, certaines ont demandé à ce qu'on regarde un peu si c'était, si on pouvait faire quelque chose. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que dans 38-40% des cas, c'est douloureux, il y a des douleurs permanentes. C'est par la douleur, hein, comme quoi, c'est même pas par le plaisir qu'on est rentré là-dedans, c'est fallait rentrer par la douleur. Il a fallu donc redécouvrir, c'était la phase où on a donc découvert l'anatomie réelle du clitoris, et en fait, en découvrant ça, on s'est aperçu que les nerfs principaux, les troncs nerveux sont intacts. Donc c'est une situation cicatricielle qui est complexe, mais l'organe est presque intact. Enfin, il y a une possibilité réelle de reconstruction complète d'un organe. C'est pas du tout de la chirurgie esthétique, c'est une chirurgie fonctionnelle. Donc on prétend réparer, remettre en place un organe qui fonctionne normalement. Avec en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est souvent accompagné, dans presque 7 fois sur 10, d'une blessure des petites lèvres, qui donne d'autres types de complications. Et il faut réparer tout. C'est pas une chirurgie juste du clitoris, c'est une chirurgie réparatrice de la vulve où on va essayer de tout remettre en place de façon complète.
Isabelle Moutreau, Cosette s'est rendue à la maison des femmes de Saint-Denis à la rencontre des patientes excisées et des soignants.
Absolument, et ça a été créé donc en juillet 2016, hein, cette maison des femmes de Saint-Denis. Alors, il y a énormément de femmes qui ont rejoint cette maison-là. Il y en a encore pas assez. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que même si avec le docteur Foldès, quelques équipes travaillent là-dessus, elles sont pas encore assez populaires entre guillemets. C'est-à-dire que on n'ose pas y aller. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en fait aller contre cette excision, quoi, qui n'osent pas en venir à bout parce que c'est un tabou là pour le coup vraiment, et puis surtout c'est pour des raisons religieuses aussi, donc est-ce qu'on peut y toucher, vous voyez, c'est complexe, quoi.
Pierre Foldès.
Oui, nous avons créé deux ans avant un premier centre multidisciplinaire parce qu'en fait le problème c'est que ces femmes non seulement elles sont mutilées mais elles sont victimes d'un crime, elles ont un contexte post-traumatique très important, et il faut les prendre en charge de façon globale. Il faut savoir que la plupart sont victimes d'autres violences, comme les mariages forcés, des violences intraconjugales, des incestes, et que si vous prenez pas ensemble, en plus du clitoris, soin de tout ça, bah, vous n'arrivez pas à aller plus loin. Donc on a créé à Saint-Germain-en-Laye Women Safe, qui était le premier centre multidisciplinaire. On est 51 à travailler sur le centre. Et on a formé, nous aussi, les équipes de la Maison de la Femme. Et on est très, très heureux de voir que c'est la façon de faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'ensemble des professionnels autour. Et c'est comme ça. Il faut savoir qu'il ne faut pas non plus centrer sur la chirurgie. La chirurgie est essentielle. Mais si vous ne suivez pas les femmes pendant des années après, ça ne marche pas si bien que ça.
Il faut quand même ajouter un truc qui est, alors là, pour le coup, très négatif. C'est que là, au mois de mai, on va sortir dans Cosette un dossier sur l'excision à Moscou. Il y a une soixantaine de cliniques privées. Un privé, bien sûr, qui pratique et qui pratiquait l'excision. Là, elles sont un peu plus discrètes, mais en trois clics, vous pouvez les trouver. Et qui, au moment où notre journaliste Audrey Lebel était sur place, pratiquait également des promotions sur l'excision. Ce qui est... vous lisez le truc, c'est vraiment incroyable, quoi.
Alexandra Hubin, comment réparer psychiquement les femmes excisées? Comment on les répare?
Mais c'est un rapport au corps qui doit être différent. Donc c'est y a tout le contexte évidemment dans lequel ça s'est passé. Je pense qu'on peut pas trop faire de généralité, mais c'est sûr c'est accueillir toutes ces femmes dans leur singularité, avoir un espace de parole où elles vont vraiment pouvoir expliquer quels ont été leurs traumatismes. Est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que ce sont des images? Ça, vraiment comme c'est comme pour tout traumatique en fait, on va tous être réactifs de façon différente. Et puis après de les aider à avoir un rapport à leur corps qui soit plus positif, plus bienveillant, aller chercher cette notion de plaisir que ce corps va pouvoir leur offrir.
Alors Géraud nous dit les femmes ne réagissent pas toujours aux caresses car elles ne se connaissent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire à Géraud?
C'est vrai que la connaissance de soi est une clé en fait. Mais chercher à avoir un orgasme, c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir d'orgasme. Donc c'est vraiment être à la recherche des différents plaisirs sensoriels, sensuels et sexuels. On dit souvent qu'il faut qu'une femme se caresse, donc qu'elle s'auto-stimule, qu'elle se masturbe en d'autres termes, pour pouvoir découvrir son plaisir. Pour moi, il ne faut pas l'imposer. Pour certaines femmes, ça va être effectivement une voie royale pour découvrir sa façon de fonctionner et après pouvoir communiquer à son ou sa partenaire la façon dont elle fonctionne. Mais si on ne le sent pas, il ne faut jamais faire quelque chose où on a des émotions qui sont négatives. Il faut toujours être à l'écoute. On est le meilleur expert de nous-mêmes.
Du point de vue de la stimulation du clitoris, pas d'injonction, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire.
Exactement, c'est ça qu'il faut retenir par-dessus tout. C'est stimuler entre les lèvres, à l'intérieur, à l'extérieur. Ne pas oublier de convoquer des pensées. Toutes nos cognitions sont importantes. Toutes les pensées que l'on peut avoir quand on fait l'amour est important. Donc tout notre imaginaire érotique, évidemment. Notre intuition aussi d'avoir envie de faire telle pratique ou telle pratique. Tout ça est important et d'être bien focalisé aussi sur toutes les stimuli sexuels, tous les éléments qui peuvent faire monter notre excitation. L'odeur de l'autre, la douceur de sa peau, le fait de regarder certaines choses, d'être touché d'une certaine... C'est vraiment tous nos sens qui vont nous amener à découvrir de plus en plus de plaisir.
Pierre Foldès, les femmes que vous réparez au sein de votre équipe, est-ce qu'elles arrivent à renouer avec le plaisir?
Alors bien sûr, c'est le but, et c'est là que justement la chirurgie doit garder une petite place. Mais effectivement, le but est de refabriquer en fait une sexualité complète. En fait, on dit toujours que ce sont les femmes elles-mêmes qui vont se réparer. Nous, on est là vraiment pas pour avoir la première place, mais pour les aider, leur donner la main, leur donner une chance de se refaire. Et c'est assez passionnant parce que le chemin de redécouverte, faut savoir qu'une petite fille qui a été excisée, c'est pas la majorité, bébé par exemple, n'a pas vécu toute son éducation, tout l'apprentissage qui fait toute la merveilleuse complexité de la sexualité féminine. Et tout ça, elle va le réapprendre, et c'est un super challenge.
Un mot de conclusion positif, Alexandra Hubin, sur cette question du clitoris?
Il faut se faire confiance.
On est le meilleur expert de nous-mêmes. On a cette créativité en nous. Et donc, simplement être à l'écoute de nos émotions et beaucoup dans la communication.
Merci à tous. Merci Alexandra Hubin. Entre mes lèvres, mon clitoris est publié chez Erol. Merci beaucoup, docteur Pierre Foldez, d'être venu ce matin. Merci Isabelle Motreau. Le hors-série de Cosette, Voyage en clitoris, est disponible en kiosque. Merci également à notre ami Christophe André et à Marie-Laure Sunshine. Juste après cette émission, nous enregistrons une émission consacrée aux idées sur les régimes. Si vous avez des questions précises, si vous avez essayé 36 000 régimes avec plus ou moins de succès, si vous avez renoncé à faire un régime et que vous avez décidé de miser plutôt sur l'équilibre alimentaire, n'hésitez pas à nous contacter sur l'appli France Inter, sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez intervenir. Demain, on s'intéresse à ces ados qui deviennent végétariens. Comment les parents ou grands-parents doivent-ils réagir face à cette révolution alimentaire? Comment distinguer la lubie passagère de la vraie philosophie de vie? Les parents doivent-ils résister ou céder? Comment négocier ce virage? 01 45 24 7000. À la technique ce matin, il y avait Pauline Laverdure et Elisabeth Collet. Il est précisément 11h.